zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Auditeur, auditrice, vous écoutez Les Ondes Buissonnières, votre créneau dédié aux pépites sonores. Aujourd'hui, vous allez entendre un épisode de Parentalité Mon Amour, une série présentée par Bastien Hénard. Vous écoutez l'épisode Répit parental et familial. Bonne écoute!
Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille, en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
Le besoin de répit peut concerner l'ensemble des parents et des familles plus largement. Il devient plus important, voire essentiel, quand on parle des aidants familiaux, parents ou enfants, qui représentent aujourd'hui 11 millions de personnes en France. La parentalité ne peut se concevoir que sur le long terme. L'accompagnement d'un proche fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap est une véritable course de fond. Le répit permet de faire une pause, de souffler, mais aussi de prévenir la grande fatigue, l'épuisement et au-delà le burn-out parental qu'entraînent ces situations. Demain 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants, au sens des aidants familiaux non professionnels. Une occasion pour nous de parler des structures et des personnes qui permettent sur le territoire de prendre un bol d'air. Quand être aidant rend le quotidien épuisant, quand être parent et porter la charge mentale qui en découle abîme le bonheur qu'est la parentalité. Quelles sont ces structures? Comment et à quel moment y a-t-on accès? Comment s'autoriser le répit quand il s'agit de ses enfants? Pour échanger sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Rachel Cogne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc référente à Bulle d'Air, c'est ça, hein, pour
oui,
la Drôme.
C'est ça.
Service de répit à domicile pour les proches aidants, de personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap. Et je reçois aussi Eric Maugour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur pôle parentalité et accueil familial à la Sauvegarde 26. Le portrait du jour sera celui de Justine Louis, bénévole de l'association Femmes Répit. Et l'agenda des structures sera présenté en fin d'émission par Stéphanie Monciot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission famille à l'UDAF de la Drôme et vous participez à la construction de cette émission. Commençons par la vision des passants sur la notion de répit parental.
Qu'est-ce que le répit parental?
J'en ai pas la moindre idée.
Un répit, c'est être soulagé, sans souci par rapport à ses enfants.
C'est quand on peut se débarrasser de ses enfants.
C'est quand on fait une pause, quand on fait autre chose qu'être parent, quoi, qu'être avec ses enfants.
Pourquoi, d'après vous, on a besoin de répit parental, c'est-à-dire de pause, de moments où il faut faire une pause dans la parentalité?
Il y a des moments où on est un peu plus stressé, du coup on a un peu du mal à les supporter quand ils sont petits et tout ça, mais vraiment une pause, non. Mais bon, des fois c'est vrai qu'on est content quand les vacances se finissent ou qu'ils repartent à l'école, voilà, ça nous fait un petit repos, mais c'est pas vraiment, pas pour les abandonner, c'est que oui, ça fait du bien quand même, ça fait du bien.
Pourquoi il n'y a pas de répit parental chez vous?
Non, parce que la charge des enfants, c'est à plein temps. De toute manière, on est obligé d'être présent tout le temps. Et c'est vrai que des personnes qui sont séparées peuvent avoir justement cette forme de répit. Alors, ils ont besoin d'être beaucoup plus présents pendant leur temps de garde. Mais c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une soupape peut-être de sécurité qui permet de lâcher un peu prise.
Parce que des fois, quand même, on a besoin d'être tranquille sans enfants et avoir un autre rythme.
Probablement pour pouvoir être plus disponible avec ses enfants au moment où on est avec eux. Encore faut-il en avoir la possibilité.
Parce qu'on n'est pas juste parents, parce qu'on est aussi femme, homme, et qu'on a besoin aussi d'une vie sociale. Voilà. d'autre chose que d'être juste parent.
Est-ce que vous avez éprouvé ce besoin en tant que parent de prendre du temps pour vos enfants, donc sans enfants? Et est-ce que vous l'avez concrétisé comment?
Oui, le besoin, oui. L'avoir la possibilité de le concrétiser, oui aussi, parce qu'on a la chance d'avoir des fois des grands-parents qui peuvent venir prendre le relais une fois de temps en temps sur un week-end. Et donc du coup, ça, une fois par an ou deux fois par an, ça fait du bien.
On se donne du temps régulièrement entre parents, en se laissant des temps de disponibilité. Après, c'est vrai que c'est une vanne qui revient régulièrement avec des personnes qui sont séparées en disant justement qu'ils ont des... Voilà, ils ont des temps libres et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent.
Ben en fait, elle n'est pas là pendant les vacances, elle est chez ses grands-parents, donc du coup, ça s'est fait un peu naturellement aussi. Ouais, c'est un peu long quand même au bout de 10 jours, j'avoue.
Tu peux pas l'avoir ?
Ben oui, oui, au début c'était dur. Je me suis habituée, j'ai vu les bons côtés depuis, mais sur le moment c'était un peu dur.
Oui, bien sûr. Après là, il est concrétisé parce qu'en étant séparés, ben, on a du temps sans enfant. Régulièrement et voilà, du coup le moment où on est avec les enfants, c'est vrai qu'on est quand même moi en tout cas je suis quand même beaucoup plus disponible.
Et alors dernière chose, comment être parent sans s'oublier complètement?
Je pense qu'on s'oublie tant qu'ils sont pas partis de la maison, je pense qu'on s'oublie, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai vécu plus pour mes enfants que pour moi.
C'est compliqué. Comme ça, à brûle pour point, je ne sais pas. Peut-être en arrivant à mieux baliser les temps, qui sont les temps dédiés et les temps pour soi. Mais le problème des temps pour soi, c'est qu'il faut que, quand on prend du temps pour soi, il faut qu'il y ait quelqu'un, justement, qui vienne nous soulager sur ces moments-là. Donc, peut-être en acceptant de faire des choses un peu moins, qui nous semblent un peu moins naturelles, peut-être en les laissant un petit peu plus, par exemple, une petite demi-heure de plus dans un système de périscolaire qui nous permettrait d'avoir une demi-heure de rab pour soi, pour faire une course ou pour passer un coup de téléphone et pour être pleinement disponible quand ils sont là.
Je cherche encore la recette.
En pensant à prendre du temps pour soi, en s'autorisant à peut-être s'obligeant des fois à prendre des temps en dehors des enfants, quoi, que ce soit en couple ou seul.
S'autoriser, on va peut-être reparler de ce mot tout à l'heure. Je voudrais une réaction de votre part, Rachel Cogne. On reviendra avec vous sur l'association Bulder en deuxième partie d'émission. Et peut-être une petite réaction à ce qui a été entendu là.
Mais on voit combien le répit est important pour tous les parents, quelle que soit la situation, mais que c'est encore quelque chose qui est nouveau, hein, lorsqu'on parle de répit familial ou parental. Pour eux, les parents, en fait, c'est tellement normal d'assumer leurs enfants constamment qu'ils ont du mal encore à aborder ce sujet-là. Hein. On le voit bien, nous aussi, dans nos interventions. Et ce qui, voilà, pour eux, c'est plus du répit au sein de la famille, qui est encore quelque chose d'assez courant. Mais faire appel à quelqu'un d'extérieur, c'est plus difficile. Et c'est encore plus compliqué à ça actuellement. Oui.
On va en parler tout à l'heure avec vous dans des situations effectivement plus complexes. J'avais comme première question, Eric Beaubourg, quelles familles sont concernées par le répit parental? Je crois qu'on aura compris que c'est toutes les familles à des degrés et à des niveaux bien sûr différents.
Oui, c'est toutes les familles. Je crois que c'est très important. Il n'y a pas de tri. Hein. C'est que tout le monde peut être dans des moments de sa vie... Hein. Soit dans des difficultés passagères, soit durables, être confronté à un besoin, effectivement, d'être autre chose que parent. Hein, je crois qu'on l'a bien entendu dans le reportage. Voilà, c'est l'évolution aussi des structures familiales, hein, qui aujourd'hui n'est plus la même qu'hier, tant mieux, certainement, ou tant pis, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il y a besoin, effectivement, de partager son temps. Voilà.
Vous m'avez parlé, quand on s'est appelé pour parler de cette émission, de solidarité familiale qui n'était plus les mêmes. C'était quoi avant, c'est quoi aujourd'hui?
Mais je crois qu'on est beaucoup dans de l'isolement. Hein. Il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a l'absence des grands-parents, il y a énormément de familles seules. L'environnement même de voisinage, où il y a beaucoup de repli sur soi qui fait que le lien social est plus compliqué à mettre en place.
On va arrêter avec cette parenthèse Covid, mais est-ce que ça a rajouté la crise Covid?
Ou ça a révélé peut-être?
Ça a plutôt, révélé, ouais. Hein, ouais.
Donc voilà, la crise Covid a été vraiment un marqueur de solitude pour les familles. Donc voilà, et peut-être aussi un marqueur de faire différemment demain.
Alors on a cette phrase, moi qui m'a marqué, qu'on entend dans ce micro-trottoir, qui est la question, mais qui est bien soulignée dans la réponse. On s'oublie quand on est parent. Oublier, s'oublier. C'est fort, très fort de sens, ça, Eric Maugour.
Soit on s'oublie parce que c'est très fatigant d'être parent, soit on s'oublie parce qu'effectivement, on est dans une société où aussi on doit penser plus à soi aussi pour être meilleur parent. Hein. C'est ça aussi, c'est des sous-questions en permanence. C'est comment, effectivement, être parent au quotidien en permanence, hein, un peu sacrificiel dans l'histoire où la mère s'occupait des parents, les pères s'occupaient des parents. Aujourd'hui, effectivement, un rééquilibrage, on le voit dans toute la société, hein, le rééquilibrage de bien diviser le temps professionnel, le temps personnel, le temps familial, et le temps parental, le temps de l'action auprès des enfants. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui se joue là en termes effectivement de meilleure qualité à être parent peut-être.
Alors vers le répit, c'est aussi s'autoriser. On a dit aussi ensemble, on a parlé de sentiments de honte presque à laisser ses enfants, à prendre du temps pour soi. On a l'impression qu'il y a la pression sociale peut-être qui fait ça, qui crée ce sentiment.
Bah, c'est-à-dire, effectivement, de dire qu'on n'en peut plus avec ses enfants.
Ça se dit pas, en fait.
Ça se dit pas, alors qu'on le vit au quotidien. Et je crois que le besoin aujourd'hui pour des familles qui sont en grande souffrance, en grande fatigue, en épuisement parental, c'est aussi de pouvoir pas culpabiliser, de dire bah, j'ai besoin d'un coup de main, quoi. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'aller au ciné. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il y a ils se disqualifient les parents eux-mêmes du fait qu'ils sont plus capables. Ils se sentent mauvais parents, ils ont une mauvaise estime de soi qui, de fait, se répercute sur les enfants de ne plus avoir envie de s'en occuper et de un peu démissionner un peu. De fait, voilà, il y a des mères de famille de 6h du matin à 22h qui n'ont pas une seconde à elles. Mmh. De la douche du matin au repas du soir et au coucher, c'est impressionnant. Donc, et en plus... Comment faire pour faire différemment ?
Alors, on a connu et est arrivé en France le burn-out professionnel il y a quelques années maintenant déjà. On parle de burn-out parental. Quand vous parlez de ces journées continues sans une minute à soi, et on revient à soi, on arrive à ce burn-out. Comment il arrive ce burn-out chez ses parents ? Alors peut-être plus dans les familles monoparentales, et je ne sais pas encore si c'est ça ou en précarité.
Je crois que le burn-out parental, il arrive quand on n'a plus la possibilité de penser ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'espace à soi pour être disponible pour l'autre. Et voilà, effectivement, les familles monoparentales sont dans des situations plus extrêmes, mais ça peut arriver pour toutes les familles. Hein, donc ça, c'est important. Hein, voilà, moi, j'ai souvent entendu, j'ai honte de prendre du temps pour moi, hein, même si j'en ai besoin.
Même si j'en ai besoin, je ne le prends pas, ce temps.
Et j'ai honte aussi du regard des autres. Hein, ça, c'est très important de savoir que c'est à la fois on a envie, mais d'être qualifié de mauvais parent ou de dire mais elle pense qu'à elle, elle va en boîte de nuit, etc., etc. Alors que c'est extrêmement complexe cette solitude face à la pression des enfants qui n'arrêtent pas une seconde, et qui sont en demande aussi d'affection. Et je crois aussi, je dirais que le burn-out parental, c'est aussi un peu ce que je dirais un épuisement émotionnel. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive même plus à aimer ses enfants dans ces situations-là.
On parle de pression sociale. Comment c'est possible ? Pas tout le monde, mais beaucoup de personnes et beaucoup de familles existent avec des enfants. Pourquoi il y a une pression alors que tout le monde, finalement, vit un peu la même chose ? C'est qu'on ne se le dit pas, on se regarde genre bah, « Toi, tu m'as l'air fatigué dans ta parentalité alors que moi, je ne le suis pas ».
Peut-être qu'elle l'est, mais qu'elle ne peut pas le dire.
C'est ça, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hypocrisie dans cette pression sociale.
Après, je crois qu'il y a aussi, ça dépend beaucoup du réseau amical, du réseau familial, d'utilisation aussi des structures qui accueillent des enfants, les centres aérés, les centres de loisirs. Voilà, donc effectivement, est-ce qu'on laisse aussi plus l'enfant à l'autre qu'avant ? Je ne sais pas, avant on partait de l'école tout seul avec son sac, aujourd'hui on doit accompagner l'enfant à l'école. Bon, est-ce que la rue est plus dangereuse qu'avant ? J'en sais rien. Ouais.
C'est ça, on se pose la question. Et du coup, l'arrivée des portables dans les poches, on va peut-être pas faire la parenthèse, dans les poches des enfants, pour faire plaisir quand même beaucoup aux parents, c'est l'idée.
Oui, écoutez, ça c'est l'évolution. Il faudra bien faire avec, et pourquoi pas.
Alors, on parle de répit. On l'a entendu, ce répit, il a quelque chose de très positif sur la famille, c'est qu'il va créer des temps... beaucoup plus serein avec ses enfants derrière. C'est en ça qu'il faut le développer aussi.
Oui. Alors le répit quand même, c'est pas un centre aéré, hein. c'est pas un acte de loisir. C'est aussi une aide, un lieu ressource pour les familles pour comprendre aussi ce qui se passe et peut-être recréer du lien social. Hein. Je crois qu'il faut ma collègue en parlera certainement mieux que moi, mais il faut absolument que le répit s'accompagne de soutien à la fonction parentale, c'est-à-dire de créer du réseau, de lieux ressources, d'échanges entre pairs. Voilà, je suis pas toute seule, quoi. Je suis pas tout seul à être dans cette situation. Voilà. Donc voilà, le répit c'est aussi soit au domicile, soit effectivement ça peut être des séjours avec des familles et leurs enfants. C'est aussi comment laisser peut-être d'autres s'occuper de nos enfants sans qu'on soit complètement submergé par cette culpabilité de pas réussir à être parent. Mais ça, je sais pas si on peut un jour le dire qu'on réussit.
On a vu naître, vous parlez de structure, de lieux physiques d'ailleurs. On a vu naître à grand renfort d'inauguration une maison du répit en banlieue lyonnaise. Je crois que c'est la seule en France, ou je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres. On en parlera aussi avec vous, Rachel, mais elle est née ici à Valence. Le projet, c'est une maison des parentalités, quelque chose de plus large peut-être, qui devrait voir le jour.
Oui, bah, j'espère. Donc,
qui verra le jour.
J'étais ce matin avec l'architecte, donc c'est très bien, qui devait ouvrir malheureusement en début 2023, qui va être repoussé en 2024, mais des actions de répit sera faites d'ici dans l'année 2023. Donc c'est une maison des parentalités, effectivement, ça sera un lieu d'accueil, un lieu de coordination. Donc c'est pas un lieu de faire à la place d'autres associations qui font très bien ça. Hein. C'est bien en complémentarité des actions qui existent déjà. Voilà, donc nous, ça sera un lieu de médiation familiale, d'espace rencontre parents-enfants, un lieu aussi les parents pourront venir échanger. Il y aura des ateliers aussi pour les enfants d'enfants séparés, par exemple. Et puis, il y aura aussi des lieux pour les parents, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Et j'espère, dans la construction d'un réseau partenarial dans la Drôme, il y a plein de gens qui font plein de choses de bien. C'est pas la peine de refaire la même chose. Donc c'est bien de refaire être à l'endroit où il n'y a rien. Hein, c'est-à-dire voilà, aussi en ville et à la campagne. Je crois que ça sera le futur sujet d'une émission.
C'est un lieu que vous imaginez, j'imagine. J'imagine, c'était pas mal. Serein, vous le construisez avec cette volonté de... Alors, ce mot est un peu galvaudé, mais de bienveillance. J'allais dire au niveau architectural, vous le pensez aussi à quelque chose d'apaisant?
Bah, je peux vous dire, hein, ça sera au 34 rue du 4 septembre à Valence. Donc, la maison est achetée. Maintenant, c'est les travaux avec, effectivement, tout ce qui se passe au niveau de l'après-Covid, le montant des... ahurissant des travaux, donc il faut qu'on fasse différemment et je tiens à dire aussi que cette maison est en partenariat avec la CAF, hein, qui nous soutient financièrement et techniquement de façon très importante.
Alors on y viendra, on espère, en 2024, c'est dans un an et trois mois. Aujourd'hui, dans l'intervalle, on fait quoi? Est-ce que la sauvegarde ou d'autres structures proposent des temps, des lieux de répit pour toutes les familles?
Actuellement, nous, on met en place, effectivement, donc on a déjà un numéro de téléphone où il y a de l'accueil téléphonique pour les parents. Effectivement, des actions vont se mettre en place d'ici à la fin de l'année sur, effectivement, des actions de soutien à la parentalité avec des actions de répit.
Alors, en préparant cette émission, j'ai vu pas mal de choses exister. On a parlé d'une maison de répit à Lyon, une maison des parentalités qui va naître à Valence et énormément d'autres choses, des structures associatives. Plein de choses se font. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'uniformisation de l'offre de répit? Alors, le répit étant récent, hein, j'entends, il faut se structurer. Mais aujourd'hui, c'est peut-être compliqué de se repérer. Et on en parlera tout à l'heure avec Rachel, surtout quand... on est noyé dans une quand on est aidant familial. Est-ce qu'il n'y a pas cette perte un peu d'informations, Eric Mogour, sur le territoire?
Je crois que la lisibilité des actions en parentalité, c'est aussi l'objet de tout le travail que fait le REAP, hein, donc le réseau d'écoute d'accompagnement des parents. Donc effectivement, on est toujours dans cette permanence d'être lisible, mais c'est pas simple. Voilà, c'est vrai, vous avez raison.
C'était pas pour ça que je le disais, et je salue l'effort de créer un endroit justement où on pourra se repérer. Juste pour terminer, cet endroit sera ouvert à toutes et tous, quelle que soit la problématique.
Exactement, à toutes les familles. Déjà ce qu'on fait, hein, parce que dans le cadre de la médiation familiale ou de l'espace rencontre, il n'y a pas de discrimination ni financière, ni aucune discrimination possible. C'est ouvert à toutes les familles.
Eh bien, on y viendra, maison des parentalités à venir. On connaît l'adresse maintenant, merci Eric Mogour. Vous allez rester avec nous dans cette émission. On va continuer, bien entendu, à parler parentalité, à parler répit. Avant ça, je vous propose d'écouter Elle te kiffe, une chanson qui est pas mal dans le thème, je trouve. C'est Alexis HK.
Thank you. J'aurais voulu une maman à l'ancienne qui attend sur le seuil en souriant, qui porte un tablier à l'ancienne avec écrit dessus ta maman qui t'aime. Une maman d'intérieur qui reçoit ses amis pour parler de Tupperware et de son mari. Une femme d'assureur, heureuse de sa vie, une maman sans envie d'ailleurs. Elle te kiffe ta mère, mais souvent elle préfère aller danser et boire en rêvant. Elle te kiffe ta mère, et pourtant elle aime aussi les hommes plus grands. Comme elle ne te voit qu'une semaine, sûre d'eux, elle retrouve sa vie d'avant, sa vie de demoiselle à l'ancienne, même si elle va sur ses 43 ans. Une maman sur Tinder qui reçoit ses amis pour parler de ses amants, qui partent sans bruit quand ils ont eu leurs heures de plaisirs assouvis. Une maman qui s'ennuie d'ailleurs. Elle te kiffe ta mère, mais souvent elle préfère aller danser et boire en rêvant. Elle te kiffe ta mère, et pourtant elle aime aussi les hommes plus grands. Elle te kiffe ta mère, mais souvent elle préfère aller danser et boire en rêvant. Elle te kiffe ta mère, mais le temps lui fait peur. Parfois elle espère, on croit que c'est ta sœur. C'est la tienne, elle attend sur le seuil en souriant. Quand enfin arrive la semaine où elle va retrouver son enfant.
Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
Et c'est un magazine proposé sur plusieurs radios associatives drômoises du territoire, Soleil FM, Erdiwa, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. On les salue toutes les quatre. Je vous propose tout de suite d'écouter le portrait du jour. Et c'est Justine Louis, bénévole de l'association Femmes Répit. C'est parti.
Justine Louis. Animatrice sur les séjours, et je suis aussi cofondatrice de l'association Femmes Répit. L'association Femmes Répit, c'est une association qui vise à accompagner des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, qui ont ou pas des enfants, et principalement dans des séjours de répit. Après, on a d'autres actions, comme organiser de l'événementiel pour sensibiliser un maximum le public auprès des questions de violences conjugales, questions de genre et et les violences sexistes. Le répit, c'est un accompagnement qui est ni dans l'urgence, ni dans la longue durée. C'est un accompagnement qui permet d'offrir un temps adapté à des personnes qui ont des problématiques spécifiques. En fait, le répit, c'est né pour accompagner les aidants familiaux dans des familles où il y avait des personnes atteintes de maladies graves ou de handicap. Et on a travaillé dans ces milieux-là avec une autre animatrice dans des séjours de répit pour des enfants en soins palliatifs. Et en fait, on s'est dit que ça pouvait tout à fait être adapté aux femmes victimes de violences conjugales. Donc oui, il y a différentes formes de répit, mais après, on retrouvera toujours le fait que c'est l'individu qui est au centre du parcours et qui a des dispositifs pour lui permettre de mieux vivre ces problématiques. Donc l'individu au centre du parcours, c'est-à-dire qu'on crée des activités, des dispositifs adaptés à ses problématiques, ses besoins et son rythme. Par exemple, nous, dans le cadre de nos séjours, on est sur des activités de bien-être, des activités créatives et sportives, par exemple. Parce qu'il va y avoir des problématiques en lien avec le corps, parce qu'il va y avoir besoin d'utiliser sa créativité. La créativité, c'est une capacité aussi à rebondir face à une ou des problématiques et aussi se remettre au centre de sa vie. Et après, par exemple, le bien-être, c'est quel rapport au corps j'ai, comment je me sens avec mon corps, sachant que dans beaucoup de cas, ces femmes ont eu des violences aussi physiques. Qu'est-ce qui m'a motivée à être bénévole? C'est personnel. C'est ma maman qui a été victime de violences conjugales quand j'étais adulte. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Du coup, je me suis sentie aussi un peu démunie. Et puis, j'ai vu aussi dans quelle situation ça pouvait la mettre. Puis, au fur et à mesure, quand j'en parlais avec d'autres personnes, je me rendais bien compte que elle n'était pas seule, ça c'est sûr, et qu'il y avait besoin de faire quelque chose, en tout cas d'offrir un autre dispositif, quelque chose qui était complémentaire à ce qui existait déjà. Moi, mon engagement, j'ai toujours été dans des milieux associatifs, mais c'était plus toujours autour de l'animation, des choses comme ça. Mais c'était pour moi une nécessité en fait d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales, sachant qu'il y a un énorme besoin aujourd'hui, on le voit quotidiennement. Alors, est-ce que le confinement a joué ? Oui, d'une certaine manière, dans le sens où il nous a permis de créer une vraie structure à notre projet. On a dessiné toute l'ossature. En fait, à la base, on était à trois et c'était pas anodin pour pouvoir dessiner un projet qui ressemblait à ce qu'on pouvait imaginer. Et aussi, grâce à ça, on a créé un diagnostic pendant cette période à destination de femmes qui avaient été victimes ou de professionnels qui les accompagnent. Du coup, ça nous a vraiment permis d'avoir un projet qui tenait la route et qui était vraiment bien ancré par rapport à ces questions-là. Alors, on peut faire dans l'ordre. Un séjour de répit, ça fonctionne déjà. On travaille avec une travailleuse sociale. Enfin, dans l'association, il y a une travailleuse sociale, une psychologue, qui, elles, sont en lien avec des partenaires, en fait, qui accompagnent des professionnels, qui accompagnent des femmes victimes de violences conjugales. Donc, ces personnes-là vont faire un repérage, en fait, sur le territoire, sur la Drôme, pour savoir à qui ce séjour pourrait être bénéfique. Est-ce que ça correspond bien à leur temporalité? Faut pas que ce soit trop tôt dans le parcours des femmes, parce qu'elles n'en profiteraient pas. Faut vraiment que ce soit un moment qui soit charnière, en fait. Ensuite, faut pas que ce soit dans l'urgence. Il y a tout plein de critères, en fait, de sécurité aussi. Donc, il doit pas y avoir de téléphone grave danger, de bracelet anti-rapprochement, de mesures d'éloignement pour éviter, toute intrusion d'un conjoint violent. Du coup, là, on sécurise vraiment tout ça. Ensuite, il y a une commission qui est faite pour savoir si c'est vraiment le bon moment pour ces femmes, si ça correspond ou pas au séjour. Et à partir de ça, du coup, on explique bien sûr évidemment aux femmes tout ce qui va se passer. Elles ont accès aussi à des documentations, notamment un reportage radio qui a été réalisé sur le séjour. Du coup, ça leur donne envie ou pas, ce projet-là. Après le départ, du coup, tout est pris en charge par l'association. Donc, on vient les chercher à leur domicile ou dans leur lieu d'hébergement. Et ensuite, on les amène dans un lieu qui est tenu secret, pour des raisons évidentes de sécurité. Et là, du coup, elles sont par deux, en fait, dans des petites maisons, on va dire, et il y a des activités qui sont proposées en commun, elles sont jamais obligées de les faire, mais en général, tout le monde participe, et du coup, ces activités, ce que je disais, il va y avoir des activités physiques et sportives adaptées, de la créativité et des moments de bien-être, et autour de ça, tout ce qui est vie quotidienne, on est dans un lieu aussi où il y a un sauna, une piscine, enfin, on est en pleine nature aussi. Du coup, les femmes peuvent aller se promener, faire ce qu'elles veulent, écouter leur rythme et se poser si besoin, se reposer. À partir de ça, du coup, il y a toute une vie collective qui s'installe. Si elles veulent participer à la cuisine ou pas, elles le peuvent, tout ça. Suite au séjour de répit, on retrouve les femmes un mois après pour voir l'évolution suite au séjour. Alors, ce qui m'a
marqué pendant le séjour, alors c'est pas un fait marquant, mais c'est vraiment de voir que les femmes au début étaient vraiment très repliées et qu'elles étaient pleines de culpabilité, et qu'à la fin du séjour, la culpabilité était inversée, c'est-à-dire qu'elle était sur leur conjoint et non plus sur elle, qu'il y avait vraiment un basculement. Et moi, ça m'a marqué en si peu de temps que ça se soit passé comme ça.
Un séjour de répit, on vient donc d'écouter cette bénévole de Femmes Répit. Peut-être une réaction de chacun de vous. Je voudrais commencer par Eric Maugour sur cette association et cette démarche.
Je trouve ce qui est intéressant dans le témoignage de Justine, c'est que c'est pensé, c'est-à-dire que c'est au service des femmes victimes de violences conjugales à un certain moment de leur vie. Hein, c'est ça qui est intéressant, et sans jugement et sans condamnation de l'autre, mais bien centré sur la personne qui a besoin de se ressourcer ou de se reconstruire dans un moment difficile de sa vie. Je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir penser ce projet, sécuriser ce projet, laisser le rythme au rythme des femmes présentes. Cuisine ou pas, promenade ou pas, en fin de compte, un moment, au-delà du répit, c'est un moment pour se retrouver, quoi. Et je crois que c'est jeune, hein, parce qu'il faut savoir que les jeunes, ce sont des jeunes femmes bénévoles dans cette association. Voilà, donc il y a un engagement, et c'est vraiment intéressant, c'est un engagement pour elles, dans cette reconstruction si difficile après les mécanismes d'emprise et de violence subies.
Rachel, peut-être quelques mots ?
Oui, mais je pense que c'est un petit peu la même chose. Ce qui est important, c'est que le séjour soit positionné aussi au bon moment, parce qu'il faut être aussi prêt à ça, et en effet, que ça ne soit pas mis en place dans l'urgence. Je pense que c'est assez global au niveau du répit, il faut que ça soit quelque chose de pensé, et puis aussi pris en compte par la suite, parce que ça ne suffit pas d'avoir un séjour de répit à un moment, et puis derrière qu'il n'y ait plus aucun suivi. On retourne tout de suite dans la même réalité, et c'est ça qui est important aussi.
On va écouter tout de suite après vos réactions et avant de rester avec vous, Rachel, pour une deuxième interview dans cette émission. Une artiste israélo-iranienne qui fait de l'électropop et qui s'appelle Liraz et qui est complètement dans le thème et dans l'enchaînement après le portrait qu'on vient d'écouter. Ce titre est issu de l'album Zan, album au message fort, une place forte faite aux femmes, une révolution personnelle et intime pour celle qui a vu les femmes de sa famille se libérer, s'assumer et s'exprimer.
شود ناز زود گوه وقتی میخونم کی سکوت کنیم، تو به کی سرخم کنیم، تو به کی زنو زنیم، تو به کجا، به کجا؟
Vous êtes bien dans Parentalité, mon amour. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que cette émission est multidiffusée sur les radios associatives Dromoise, Soleil FM, Erdiwa, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Aujourd'hui, on parle de répit et pour continuer cette émission, je me tourne vers Rachel Cogne. Vous êtes responsable du secteur pour la Drôme de l'association Bulle d'Air. Je voudrais savoir d'abord, en quelques mots, si vous pouviez nous décrire l'association Bulle d'Air, de quel constat est-elle partie ?
Donc Bulle d'Air est une association qui propose du répit à domicile et qui en fait est issue du concept du baluchonnage québécois qui a été mis en place il y a longtemps, notamment pour accompagner les aidants des personnes atteintes de troubles cognitifs au Québec. Voilà, ce principe du coup a été développé en France par Bulle d'Air il y a à peu près 11 ans. Et jusqu'à maintenant, on intervenait principalement auprès d'aidants de personnes âgées ou malades ou en situation de handicap, mais notamment auprès d'adultes, pour proposer des temps de répit à ces aidants. Et depuis donc à peu près 3 ans, l'association, de partenariat avec les CAF, ont mis en place du répit pour les parents. Et pour les parents ayant des enfants en situation de handicap.
Alors effectivement, il y a des situations et des moments dans la parentalité où on a véritablement besoin de répit. On écoute.
On sent qu'on est au bord de la rupture à certains moments, il ne faut pas se mentir. Comme un arbre qui pousserait à un moment donné, mais si la tempête est trop forte, ça craque d'un seul coup.
Cet extrait de vidéo que j'ai utilisé pour préparer cette émission, je vous l'avais dit, Rachel, de superbes vidéos qui ont été réalisées alors, par la MSA pour montrer votre travail à Bulle d'Air. C'est des vidéos à voir véritablement. Et vous mettez donc en avant les différents intervenants autour de votre action. Et je voulais savoir, il nous parle de l'arbre qui va craquer. Comment on repère et comment on mesure les signes de l'épuisement ?
Simplement, les parents souvent font appel à leur entourage ou au service des instituts, au CMS, assistance sociale, et ils montrent à quel point leur épuisement est fort. Ils ne peuvent plus prendre en charge leur enfant, nous en situation de handicap, et ils sont vraiment prêts à craquer et vraiment à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, je pense, parfois.
J'ai entendu sur différentes émissions de radio, non pas concurrentes, mais d'autres radios, copines certainement, que parfois l'aidant ne sait pas qu'il est aidant. Il ne prend pas conscience de ça.
Nous, lorsque les familles arrivent vers nous, on a un questionnaire à leur remplir, et il y a une partie aidant, une partie aidée. Et lorsqu'ils ont ce questionnaire, en fait, les familles ne savent pas remplir, parce que pour eux, ils ne sont pas aidants. Les parents ne sont pas aidants, ne se considèrent pas comme des aidants. Donc souvent, justement, ils mettent à la place de l'aidant, ils mettent les intervenants à domicile, alors que les aidants sont eux, mais pour eux, c'est parents, c'est être... c'est normal, et c'est à eux de prendre en charge leur enfant, et ils ne sont pas, pour eux, ils ne sont pas aidants. Donc ils ont en effet du mal à faire appel à à d'autres personnes pour prendre en charge cet enfant pendant des temps donnés.
Alors, prise en charge, accompagnement, sur le temps long, bien entendu, je le disais en introduction, être aidant, et là aussi c'était en intro, est-ce que c'est vraiment une course de fond ?
Oui, clairement. Je pense que c'est clairement une course de fond. C'est un sprint même, parfois, entre les jongler avec l'enfant au quotidien, mais aussi avec les différents rendez-vous. Notamment pour un enfant en situation de handicap, il y a énormément de rendez-vous avec des intervenants libéraux, ou alors une école à temps partiel, un IME à temps partiel. Il faut gérer tous ces allers-retours, tous ces rendez-vous, plus le quotidien, plus la fratrie, parfois. Donc c'est plus qu'une course de fond, oui.
Alors, vous êtes donc autour de ces aidants. Quand ils viennent vous voir, ils sont au courant, vous parliez d'une d'une démarche québécoise, arrivés en France, j'imagine, récemment. Donc j'imagine qu'ils viennent un petit peu pas à pas vers vous en se disant est-ce que ça va fonctionner ?
Ouais, alors pour les parents, ils sont beaucoup orientés vers nous, vers des partenaires sociaux. Très peu viennent d'eux-mêmes, en fait. Hein, ils font appel à nous uniquement parce qu'ils sont orientés par des partenaires. Donc du coup, c'est un petit peu plus facile parce qu'ils ont déjà identifié qu'il y avait un besoin de par ces interventions de partenaires. Mais des familles qui arrivent directement, ils ne savent pas. Ils nous disent qu'ils ont besoin de moments de répit, mais ils ne savent pas le quantifier, quand, comment. C'est très compliqué pour eux de dire j'aurais besoin de quelqu'un pour 3 heures, à quel moment Ils sont un petit peu perdus dans cette demande au départ.
Il y a aussi ce sentiment peut-être de honte dont on parlait au début. Il est là aussi.
De honte et de culpabilité, oui, bien sûr. Oui. Pour eux, c'est leur enfant, il est là et ils doivent le prendre en charge, quoi qu'il leur en coûte.
Et puis, il va falloir faire confiance.
Confier un enfant qui ne sait pas s'exprimer verbalement, qui ne pourra jamais vous faire un retour sur comment ça s'est passé avec la personne, il faut avoir une confiance totale.
Alors je précise qu'on écoute le papa et la maman de Sylvain dans ces petits extraits. La confiance, elle est primordiale. Quand on vient chez vous, on confie son enfant, c'est-à-dire qu'on le laisse pour des parents qui sont dans de l'accompagnement quotidien et puis 24 heures sur 24 et il faut le lâcher. Comment vous faites pour les accompagner vers le lâchement, je ne sais pas si ça se dit.
Alors du coup, on a toute une phase de préparation hein, où nous déjà, on rencontre les parents, d'abord seuls, pour évaluer, mieux les apprendre à les connaître, à connaître l'enfant, leurs besoins, leur situation. Ensuite, on sélectionne du coup un ou des intervenants qui seraient susceptibles d'intervenir avec leur enfant. On leur les présente et c'est eux en fait qui après, avec le feeling, hein, se sentent que ça va bien se passer. Il y a des moments d'abord d'intervention avec la famille, au sein de la famille, pour que l'enfant puisse apprendre à connaître l'intervenant, à faire confiance. Et puis après, tout doucement, ça part et l'enfant... part tout seul avec l'intervenant ou reste au domicile, c'est au choix des familles.
Alors cet intervenant, il est sélectionné par vous, relayeur, relayeuse, je crois que c'est ça le nom.
C'est ça, nos intervenants, ils appellent des relayeurs ou des relayeuses parce que simplement, elles prennent le relais de l'aidant. Donc et en effet, ils sont sélectionnés par nous. Donc on fait une présélection pour ces répits parentales, ce sont des professionnels du monde de l'éducatif, hein, soit des accompagnants éducatifs sociaux, des moniteurs éducateurs ou des auxiliaires de vie scolaire. Ça peut être un petit peu, mais c'est des personnels sélectionnés.
Qu'est-ce que vous avez comme critère dans vos sélections autre que la provenance professionnelle?
L'expérience, le feeling et forcément savoir intervenir auprès d'une personne en situation de handicap, c'est quelque chose de particulier. On a aussi maintenant de plus en plus de parents ayant eu des enfants en situation de handicap et qui veulent aussi maintenant proposer de devenir relayeurs en fait pour soulager d'autres parents et ça devient de plus en plus fréquent. Et donc c'est assez chouette parce que du coup ça nous des relations particulières entre justement cette relayeuse qui a été elle-même en situation compliquée et qui me dit oh, mon Dieu, si ce dispositif avec la CAF avait existé il y a 15 ans, qu'est-ce que ça m'aurait fait du bien. Et du coup avec ses parents qui ont besoin et du coup c'est des relations super chouettes qui se mettent en place.
Alors je parlais de la mesure de la fatigue, de l'épuisement. Comment on va appliquer à cet épuisement des journées de relayeurs, de relayeuses? Est-ce qu'on va mettre 2 week-ends par mois? C'est en fonction de la demande des familles?
Oui, c'est vraiment un dispositif qui est très souple. En fait, on s'adapte aux besoins de la famille. Donc, certaines familles vont prendre un après-midi par semaine, hein, de 3 heures par exemple. D'autres familles vont prendre un week-end par mois. Certaines familles vont prendre 3 jours de suite. Ponctuellement, c'est vraiment au souhait de la famille. Après, j'avoue qu'une fois que les parents... ils goûtent, entre guillemets, prennent une première intervention qui est difficile à mettre en place, souvent, très rapidement, ça se met dans la régularité, en fait.
Alors, on ne va pas parler trop technique. Ceci dit, quand on a discuté ensemble, vous m'avez donc, et vous en avez parlé là aussi, de baluchonnage qui se fait au Québec. Décidément, les Québécois, on les entend beaucoup dans Parentalité, mon amour, avec leur démarche. Vous avez donc parlé de baluchonnage, une manière d'embaucher quelqu'un pour l'amener vers les familles. Vous, c'est donc des relayeurs, des relayeuses. Vous ne fonctionnez pas pareil, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont embauchées par vous, si j'ai bien compris.
Non.
Non, embauché par les familles,
c'est
pardon.
Ça, voilà, c'est voilà, ça, c'est la différence avec le mal chômage.
Embauché par les familles directement. Et vous êtes où dans
Nous,
ce...
en fait, on est à l'intermédiaire, au milieu, entre la famille et le relayeur.
Pour le rencontrer
Pour le rencontrer, pour faire toute la partie administrative surtout. Donc les familles n'ont rien à leur charge, on s'occupe de tout ce qui est recrutement, contrat de travail, déclaration URSSAF, etc. Donc les familles n'ont pas toute cette charge administrative en plus, elles n'en ont pas besoin puisqu'elles sont déjà bien surchargées par ailleurs. Donc c'est la différence avec le baluchonnage notamment. Oui.
Alors on est d'accord que sortira sur le bulletin de salaire le nom de la famille.
C'est enfin, ça, le nom de la famille qui est employeur.
Qui va être employeur. Oui. Donc effectivement on est déchargé de l'administratif et c'est pas mal. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà vu vous-même, vous avez assisté à le relayeur qui arrive dans la famille et qui laisse son enfant? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau des émotions? On l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais quand ça se passe, est-ce que vous avez déjà été sur le lieu?
J'ai pas été sur le lieu. Alors moi, j'assiste la plupart du temps à la présentation, entre la première fois entre la relayeur ou la relayeuse et la famille, mais pas après au cours d'une intervention. Après, on a les retours et on voit à quel point les parents sont anxieux dans un premier temps hein, de confier leur enfant à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Vu que nos relayeurs ont, voilà, après on a un petit groupe en fait qui intervient auprès de plusieurs familles, ils commencent à bien se connaître et du coup ça se passe très bien, il y a vraiment une très bonne relation. Et puis moi j'ai des retours des familles qui ont fait des choses qu'elles n'auraient pas pu faire sans cette intervention, et ça c'est que du bonheur.
C'est que du bonheur, j'aime bien cette phrase. Je vous propose d'écouter une relayeuse, elle s'appelle Véronica, puis je crois que Eric Mougour a une réflexion, ce sera juste après.
Pour eux, le lendemain n'existe pas. On vit le moment présent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est de eux qu'il faut puiser. C'est eux la source.
Et voilà, Véronica qui nous parle de ses enfants, qu'elle accompagne et qu'elle aide, qu'elle prend en charge pour soulager les parents. Allez voir toutes ces vidéos qui sont réalisées par Bulder, en partenariat avec la MSA, à voir sur Internet. C'est des vidéos à découvrir, que l'on prépare une émission ou pas sur le répit. Eric Mougour, il y avait une réaction.
Oui, moi je voulais simplement témoigner par rapport à ce que vient de dire ma collègue sur un emploi du temps d'un enfant dans une famille qui est porteur de handicap. Imaginez-vous du lundi au dimanche, sur une heure de scolarité par jour, chez l'orthophoniste le soir, il va faire du judo le mardi midi, il va à l'école une heure, c'est l'enfer pour les familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de continuité de prise en charge. Tout est ambulatoire, si je peux dire, qui donc effectivement demande des efforts incroyables aux familles, qui doivent s'adapter eux aux institutions, et les institutions ne s'adaptent plus aux besoins des enfants.
Alors, merci Eric. Ça. Peut-être, oui,
c'est exactement ça. J'avais pas conscience, en fait, de ces difficultés avant de rencontrer ces familles. Hein. Et c'est vraiment maintenant impressionnant. C'est le parcours du combattant, hein. Franchement. Ils ont des journées entre aller le taxi pour aller à l'IME, le psychologue à telle heure, l'école une heure. Il y a des enfants qui vont à l'école une heure le matin, d'autres après tel jour, c'est l'après-midi. Enfin, l'emploi du temps n'est jamais le même à la journée. Et certaines mamans ou papas hein, sont en incapacité de pouvoir prendre un travail parce que du coup, rien qu'à cause de tout cet emploi du temps de l'enfant. Quoi.
Alors, on était en plus dans une forme d'invisibilité. Alors, le burn-out familial, les aidants et le répit qui sont des thématiques, on parlait tout à l'heure de la journée nationale du répit, c'est demain, permettent de mettre en lumière et d'être là autour de la table aujourd'hui. Mais il y avait une forme d'invisibilité de ces familles, j'imagine, qui devaient se sentir seules au monde.
Oui, bien sûr, hein. Ils se sentent même plus que tout le monde. Et puis, avec la complexité, justement, pour ces familles, de trouver de l'aide, savoir où se renseigner, c'est le parcours du combattant pour eux aussi, hein, d'avoir accès à toutes ces aides.
Alors, quand Bulder n'est pas forcément là, est-ce que l'aidant, il a des aides, justement, extérieures, financières? Comment ça fonctionne pour les aidants avant qu'ils arrivent chez vous? Est-ce qu'ils sont aidés quand ils sont, ils ne peuvent plus travailler?
Oui, ils peuvent avoir une aide de parents d'allocation pour rester au domicile, voilà, qui est possible en tant que parent aidant. Mmh. c'est possible d'avoir une aide financière qui compense en partie la perte de travail. Mais c'est, on a nous souvent affaire à des familles qui sont en grande précarité financière parce que justement toutes les prises en charge de l'enfant sont aussi quelque chose qui est à leur charge et qui n'est pas compensé par toute cette et la perte d'un emploi et la non-prise en charge des professionnels libéraux par exemple ou d'un éducateur à domicile ou toutes ces choses-là qui rajoutent des coûts. Et beaucoup de parents ayant des enfants en situation de handicap sont en grande précarité financière.
Alors, j'entendais un aidant dire, je ne sais plus où j'ai trouvé l'information, mais cet aidant disait, si l'accompagnement était mieux organisé en France, aurait-on besoin des aidants ? Les aidants familiaux pourraient choisir d'être aidants. Vous en pensez quoi de cette phrase ? C'est un aidant qui le dit.
C'est un peu difficile.
Au pied levé, excusez-moi. Ouais.
Oui, je sais pas. Après, je pense que les aidants auront toujours besoin. Après, aidants, c'est au sens large. Il y a les parents, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont autour. Nous, parfois, il y a les fratries. Les frères et les sœurs sont aussi aidants. Dans ces cas-là, ou les grands-parents. Enfin, l'aidant n'est pas que le parent.
C'est ça, il faut vraiment pas oublier ça. On en a parlé un petit peu, on l'a peut-être évoqué, mais on parlait de famille, c'est-à-dire le répit pour la cellule familiale, parce que ça peut être l'enfant qui est en charge dans les familles ou le parent. Mais on n'y pense pas forcément, c'est vrai.
Ou les frères et sœurs.
Les frères et sœurs, c'est ça.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est à ne pas oublier. Je vous propose de terminer toujours avec un extrait des vidéos. Et je vous remercie de m'avoir amené vers celle-ci, Rachel Cohn. Peut-être avec une note d'espoir pour avancer.
Puis on rend service à Sylvain aussi, puisque nous on profite de ce temps pour se nous ressourcer. Du coup, on est plus disponible pour lui au moment où il en a besoin.
Et on va retrouver Stéphanie pour l'agenda de cet épisode autour du répit. Alors on va commencer avec une info pyjama.
Et oui Bastien, avis aux parents, offrez-vous une soirée détente sans les enfants. C'est la MJC de Port-les-Valons qui va vous les garder. Le prochain rendez-vous, c'est le 14 octobre. Et plus d'infos sur la MJC La Canopée.
Alors on fait un petit tour dans le sud de la Drôme.
Oui, à Saint-Paul, les Trois Châteaux, une soirée ciné-débat autour de la maladie d'Alzheimer. C'est le 7 octobre à la médiathèque. Plus d'infos sur le site de l'association Alzheimer Drôme.
Alors, on va parler de la thématique du jour, hein, le répit.
Oui, donc toujours au ciné, une soirée ciné-débat autour du film À temps plein. Le 18 octobre, au cinéma Le Luxe à Valence. C'est gratuit via une inscription sur le site de la CAF 26.
Alors, on continue justement sur le répit, c'est bien, il y a plein d'informations là-dessus.
Oui, effectivement, Bastien, une journée est prévue le samedi 25 octobre à la Maison des associations à Nyons. Donc, il y aura des conférences, des ateliers, un concert. C'est de 10h à 19h. Et vous allez avoir plus d'infos au carrefour des habitants de Nyons.
Alors, on va faire un petit tour du côté de novembre. Les deux informations.
Oui, deux infos. Donc, la première, c'est une rencontre after work, être dit et alors. C'est animé par les bénévoles de l'APEDA. Ça a lieu le lundi 14 novembre en soirée de 17h30 à 20h. Et rendez-vous à la MPT du plan à Valence.
Ah, et on termine cet agenda avec de la lecture.
Oui, un tout nouveau festival. C'est un festival pop-up autour du livre animé. Et ça a lieu entre les 25 et 27 novembre 2022 à la médiathèque François Mitterrand à Valence.
Merci beaucoup Stéphanie pour ce premier agenda. On se retrouve très prochainement. Ce 29e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour, Rachel Cohn de Bulder, service de répit à domicile pour les proches aidants de personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap. Et à Eric Maugour, directeur Pôle Parentalité Accueil Familial à la Sauvegarde 26. Merci à la CAF.
Merci
beaucoup à tous les deux. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26. Merci à Eric Barral pour la réalisation de cette émission et à Raphaël Terrivillet pour le montage du portrait. Le prochain numéro aura lieu le mercredi 30 novembre. Nous aborderons les familles des villes et les familles des champs. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives Drômoises, Soleil FM, Erdiwa, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites internet de ces radios et sur le radio-mega.com, caf.fr, udav26.fr. A très bientôt dans Parentalité, mon amour.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.